voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 37 cas de choléra identifiés à Mayotte. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, est attendu la semaine prochaine sur place. Pour lui, la situation est néanmoins sous contrôle, mais les ONG s'inquiètent pour les populations les plus fragiles.
Syndicats et représentants des filières agricoles sont attendus ce matin à l'Élysée pour solder la crise. Des manifestations qui avaient poussé le gouvernement à prendre de nombreuses mesures, un sujet sensible à l'approche des élections européennes.
Avant le 9 juin, le RN a-t-il peur ? En meeting à Perpignan, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont mis en garde hier leurs électeurs. Pas d'abstention, pas de dispersion. Ce sera le billet politique de Jean Lemarié dans un quart d'heure.
Nous ferons le point sur la dernière manifestation massive en Géorgie. Le Parlement a adopté hier en deuxième lecture un texte controversé.
11 hôpitaux seulement fonctionnent partiellement dans la bande de Gaza. Des ONG, dont Médecins sans frontières, tentent de les remettre en marche malgré la guerre. Aujourd'hui, la ministre déléguée aux Outre-mer et la semaine prochaine, le ministre de la Santé. Les visites se succèdent à Mayotte, département le plus pauvre de France, où le gouvernement entend lutter contre l'immigration et l'insécurité et où 37 cas de choléra ont été identifiés. Plusieurs dizaines de médecins et d'infirmières réservistes ont été envoyés sur place. Associations et ONG s'inquiètent des risques encourus par les populations les plus fragiles, Mathieu Laurent.
Médecins du Monde mène des actions de médiation en santé depuis 2021 dans les bidonvilles de Longoni et de Dzoumogné, non loin de Kungu, où les premiers cas de choléra ont été détectés. Marion Rammstein est coordinatrice de l'ONG à Mayotte.
On a tous les ingrédients, des conditions de vie précaires, des conditions d'accès à l'eau inexistantes et des conditions d'hygiène qui sont déplorables, qui permettent pas de respecter des gestes aussi simples et qui sont pourtant tant utiles pour lutter contre le choléra comme le lavage des mains.
Or, le virus se transmet par des eaux contaminées ou de la nourriture. Autre facteur aggravant et non des moindres, l'accès aux lieux de soins.
C'est des personnes qui sont pour la plupart en situation irrégulière et on a remarqué une intensification des contrôles et des interpellations aux abords de lieux de soins et voire même parfois dans les lieux de soins par les forces de l'ordre. Donc ça rajoute un frein très important puisqu'il y a cette peur de se faire interpeller.
Lors de ces maraudes de sensibilisation, MDM propose des kits d'hygiène et des dépistages dans un environnement médical affaibli à Mayotte par un lourd sous-effectif. Marion Rammstein.
Il y a plus de 70% des soignants qui ne sont pas remplacés. Et pour concentrer ces efforts sur la réponse choléra, 11 des 13 dispensaires qui sont disponibles sur l'île ont été fermés. Pourtant, les dispensaires, c'est les lieux de soins où les personnes en situation de grande précarité, y compris celles qui n'ont pas accès à la sécurité sociale, peuvent venir se faire soigner avec des forfaits subventionnés.
Après saturation de celle du centre hospitalier de Mamoudzou, une deuxième unité choléra a été ouverte au sein du centre médical de référence de Dzoumogné, au nord de Grande-Terre.
Mathieu Laurent, Emmanuel Macron peut-il tourner la page de la crise agricole ? Le président recevra ce matin les syndicats et représentants des filières à l'Élysée pour évoquer les perspectives de l'agriculture française et européenne. Envisagée à la mi-mars, la réunion n'avait pas pu se tenir, les conditions n'étaient pas réunies. Cette fois, l'exécutif veut y croire, Rosalie Lafarge.
Le cadre, l'Élysée l'a posé mi-mars. Emmanuel Macron recevra les syndicats quand tous les travaux conduits par le gouvernement permettront au président de conclure la séquence, expliquaient ses conseillers pour justifier le premier report de cette réunion. Depuis, les séries d'annonces se sont enchaînées. La dernière, dévoilée ce week-end par le Premier ministre, rencontre un écho plutôt positif chez les syndicats majoritaires. À Matignon, on évoque un ensemble de mesures de nature à entrer dans une nouvelle phase qui n'est plus celle de la mobilisation. Il est temps de marquer, si ce n'est la fin, au moins une vraie étape à appuyer un parlementaire. Cette crise, on a réussi à la gérer, disons-le, avance un élu Renaissance, convaincu lui que les agriculteurs aujourd'hui insatisfaits ne seront de toute façon jamais d'accord. On a écouté, concerté, sorti le chéquier, les tracteurs sont rentrés. Il faut le souligner, insiste aussi un fidèle du président. Ça peut nous permettre de sauver notre deuxième place aux européennes, veut encore croire un député. Mais personne n'entend évidemment crier totalement victoire non plus. D'abord parce que toutes les organisations promettent de rester vigilantes quant à la concrétisation des mesures. Ensuite parce que l'un des éléments de la réponse, le projet de loi d'orientation agricole, débute là son parcours à l'Assemblée dans une certaine tension. Réécrit sous la pression des manifestations, le texte est largement critiqué par les oppositions et pourrait subir un coup d'arrêt dès son arrivée dans l'hémicycle dans une dizaine de jours, puisque plane sur lui la menace d'une motion de rejet votée d'emblée, empêchant alors l'examen en séance et offrant aux opposants du président un objet politique brûlant à moins de 30 jours du scrutin européen.
Sudrail Île-de-France appelle à la grève le 21 mai. Les cheminots entendent faire pression sur la direction de la SNCF avant les négociations prévues sur les primes versées pour les Jeux Olympiques. Des perturbations sont à prévoir sur le RER et les Transiliens. Sur la réduction des heures supplémentaires dans les collèges et lycées, le gouvernement fait marche arrière. 48 heures seulement après avoir suscité la colère des enseignants et chefs d'établissement en leur annonçant la diminution, voire la suppression des budgets pour les pays. Les enseignants et leurs syndicats avaient clairement dit qu'ils ne feraient plus 16 heures en plus de la classe pour assurer des missions d'aide aux devoirs, d'accompagnement des élèves en difficulté ou encore de surveillance des bacs et brevets blancs. Le ministère revient donc sur cette décision, une séquence dont Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, tire les leçons.
La très grande colère de ces derniers jours, elle s'expliquait par le sentiment de mépris ressenti par les collègues, mais aussi le fait que concrètement, c'était des dispositifs qui profitent tous les jours aux élèves, qui allaient être supprimés. Et on s'est demandé, mais comment d'un trait de plume, le ministère de l'Éducation nationale et Bercy peuvent rayer ces dispositifs-là, alors qu'on sait concrètement que ça va permettre, par exemple, de faire une séance de révision du brevet avec les élèves, que ça va permettre de faire une séance de préparation au grand oral avec quelques élèves de terminale. Donc ça illustre aussi quelque part une forme de déconnexion avec le terrain, puisque cette décision a été prise sans se dire que ça pouvait mettre le feu à l'éducation nationale. Et puis c'est vrai qu'on finit par se demander un peu qui est le pilote dans l'avion éducation nationale. Là, on a l'impression que la ministre a peut-être repris un peu la main sur ce sujet-là face à Bercy, mais il va falloir que ça continue et surtout préserver l'éducation nationale de toutes les coupes budgétaires. Parce que aujourd'hui, on nous rétablit les HSE, c'est-à-dire ces heures supplémentaires pour la fin de l'année, mais il y a toujours 682 millions d'euros d'économies à faire. Et nous, on continue de dire que ces économies-là, elles ne sont pas à faire ni au troisième trimestre, ni à la prochaine rentrée.
Sophie Vénétité du SNES-FSU, des propos recueillis par Camille Magnard. La CGT a salué un 1er mai offensif et rassembleur hier. Le syndicat a recensé plus de 210 000 manifestants en France. De son côté, le ministère de l'Intérieur en a compté 121 000. Raphaël Glucksmann, qui voulait défiler à Saint-Étienne, n'a pas pu le faire. Glucksmann, casse-toi ou encore Palestine vivra, pouvait-on entendre. Tête de liste PS Place Publique pour les Européennes, il a été violemment pris à partie et aspergé de peinture avant d'être exfiltré. Il pointe du doigt la France insoumise, ce que récuse Jean-Luc Mélenchon.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le projet de loi controversé en Géorgie a été adopté en deuxième lecture par le Parlement hier.
Oui, il en reste une troisième. Un texte sur l'influence étrangère jugé liberticide par ses opposants et très inspiré d'une loi russe. Des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues hier soir dans la rue. L'un des rassemblements les plus importants dans l'histoire récente de cette ex-république soviétique. La crise politique suscitée par l'examen de ce projet de loi approfondie de jour en jour, Régis Janté.
Sitôt le texte voté en deuxième lecture par 83 des 150 députés, des dizaines de milliers de Géorgiens ont convergé vers le Parlement sur l'avenue Roustavéli. Les discours enflammés pour dire non à la Russie, oui à l'Europe ont été prononcés sur le parvis du Parlement, tandis que d'autres manifestants assiégeaient les entrées du bâtiment et traitaient les députés de Moneba, esclaves, et de Roussebo, russes. Une foule en colère, notamment après les brutalités des forces de l'ordre la veille, une foule en colère aussi après le discours en début de soirée du Premier ministre Irakli Kobaridze qui a expliqué que les adversaires du projet de loi sur les agents de l'étranger sont manipulés par une poignée d'ONG à la solde de l'Occident. Une foule de jeunes notamment, mais pas seulement, venus déterminés au rassemblement munis de masques en tout genre. Masques dont elle a eu à se servir après quelques heures, les forces de l'ordre ayant tenté de dégager les entrées du Parlement et son parvis à coups de gaz lacrymogène. Ce mercredi soir, le pays semble s'être enfoncé encore plus profondément dans la crise entre un gouvernement contrôlé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili qui semble être allé trop loin pour pouvoir reculer et une population qui, dans sa majorité certainement, ne veut absolument pas de cette loi russe.
Les précisions de Régis Janté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit suivre avec une vive inquiétude ces manifestations en Géorgie et elle appelle le pouvoir à garder le cap, dit-elle, vers l'UE. Alors qu'Israël menace toujours d'avancer sur Rafah, des ONG tentent de réinvestir l'hôpital Nasser de Khan Younes, plus au nord, avec l'espoir de pouvoir soigner des centaines de milliers de personnes qui pourraient être évacuées. 11 hôpitaux seulement fonctionnent partiellement dans l'enclave palestinienne. Les soins sont maintenant essentiellement assurés par les hôpitaux de campagne. Le point avec Étienne Monin.
Médecins sans frontières fait partie des trois ONG qui essayent de remettre l'hôpital Nasser sur pied. Les bâtiments ont été au centre des combats pendant 2 mois. Michel Lacharité est responsable des opérations d'urgence à MSF.
L'aile médicale où MSF avait son activité pour les brûler a lui-même été touchée par un tir d'artillerie.
D'ici une dizaine de jours, malgré les difficultés, l'ONG espère remettre en route les urgences, la chirurgie orthopédique et les soins pour les brûlés. C'est une course contre la montre pour être prêt en cas d'offensive sur Rafah.
On est en train de faire les inventaires et d'essayer de voir ce dont on a besoin et qu'est-ce qu'on peut apporter très rapidement en termes de préparation à l'offensive et d'être capable d'accueillir des blessés.
Mais aujourd'hui, la majorité des lits à Gaza se trouvent dans les hôpitaux de campagne. Ils ont été montés par des ONG ou des pays. Ils ont le soutien des Israéliens. Michel Lacharité.
Nous avons dû évacuer au cours des derniers mois à 9 reprises des structures hospitalières pour des raisons de sécurité, parce qu'ils étaient touchés, parce qu'ils étaient sommés d'évacuer. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion que la seule façon de travailler, c'est d'amener un hôpital de campagne.
MSF travaille donc aussi à la mise sur pied de 2 hôpitaux de campagne, dont le centre de l'enclave. À Rafah, au moins un tiers des grandes structures risquent d'être évacuées en cas d'offensive.
Et en tournée la 7e au Proche-Orient depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le Hamas à accepter dès maintenant la nouvelle proposition de trêve dans la bande de Gaza, tout en réaffirmant l'opposition de Washington à une grande offensive israélienne sur la ville de Rafah à la frontière égyptienne. Pendant ce temps, aux États-Unis, la police est déployée sur plusieurs campus américains, théâtre d'une mobilisation étudiante en soutien à la population gazaoui. En France aussi, d'ailleurs, des campus de Sciences Po en particulier sont concernés. Nous y reviendrons après le journal avec les invités de Guillaume Erner. Ajoutons que la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, doit réunir ce matin les présidents d'établissements en visioconférence. Sadiq Khan est donné favori, le maire travailliste de Londres brigue un 3e mandat et il devrait être réélu aujourd'hui malgré une campagne violente et de nombreuses critiques venues de certains de ses adversaires. La correspondance à Londres de Richard.
Susan Hall ne cache pas son admiration pour Donald Trump. Elle dit qu'il y a un problème de criminalité dans la communauté noire. Pendant la campagne, elle a inventé avoir été victime d'un pickpocket quand en fait, son sac était resté coincé entre 2 sièges du métro, retrouvé sans que rien ne manque à l'intérieur. Elle a aussi beaucoup joué sur les tensions communautaires actuelles, affirmant que les juifs londoniens étaient effrayés par le maire actuel, un maire musulman. Voilà la principale adversaire de Sadiq Khan aujourd'hui. Sur la chaîne LBC, face à elle, il a répondu.
J'ai participé à 3 élections locales, 3 législatives, et c'est mon 3e scrutin municipal. La candidate conservatrice est la plus dangereuse que j'ai affrontée.
Pas dans les urnes, selon les sondages, où elle s'est effondrée au fil de ses déclarations outrancières. Pourtant, le bilan de Sadiq Khan n'est pas idéal. Il ne parvient pas à enrayer la criminalité, en particulier les attaques au couteau. La sécurité fait partie de son champ d'action. Les transports aussi. Les principales artères de la capitale sont encore régulièrement embouteillées et sa lutte contre les véhicules polluants avec l'extension de la zone à péage ne convainc pas la population. D'ailleurs, dans les enquêtes de popularité, il n'atteint pas 50%. Au sein même du Parti travailliste, on lui reproche parfois de faire cavalier seul. Il a axé sa campagne sur le logement, incroyablement cher. Ici, Khan promet la construction de 40 000 logements sociaux.
Richard Place. Le temps en France. Les vigilances orange aux orages et pluies inondations ont été levées dans tous les départements concernés. Une femme est morte après une coulée de boue sur la commune de Courmelles près de Soissons, annonce ce matin la préfecture de l'Aisne. L'Aisne qui faisait partie des départements en orange hier. Aujourd'hui, plus d'alerte de ce type donc, mais un temps encore perturbé. Un ciel souvent gris et chargé sur la plupart du pays. 14 degrés attendus cet après-midi à Paris comme à Cherbourg, 15 degrés à Bordeaux et Montpellier, 17 degrés à Strasbourg.